Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le 4 juillet dernier...
Le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée en mars dernier.
À l'occasion de mon discours de politique générale, j'avais évoqué l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté en Nouvelle-Calédonie. Cette échéance historique, tous les groupes politiques ont exprimé leur accord sur la date du 4 novembre prochain. Poser la question de la pleine souveraineté ou du maintien dans la République, c'est demander au peuple de trancher. Ça n'est pas sans risque parce que trancher, c'est parfois prendre le risque de diviser. Et diviser en Nouvelle-Calédonie, c'est encore plus qu'ailleurs dangereux.
Dans un mois, les 175 000 électeurs néo-calédoniens répondant aux critères d'admission sur la liste électorale élaborée spécialement vont devoir répondre à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Une question qui divise toutes les communautés de ce qu'on appelle le caillou.
Je ne suis pas un indépendantiste. Moi, je suis calédonien. Moi, je suis d'abord un mec de Poya. Après, je suis un mec du Nord. Après, je suis calédonien. Après, je suis français. Faut que ce soit clair. Mais je suis d'ici, moi.
Un sentiment d'appartenance qu'on comprend mieux quand on connaît un peu le territoire.
C'est magnifique comme pays. On a tout ici. On a tout. On a les plages, on a les montagnes, on a quand même la culture française ici, on a la culture mélanésienne ici. Il nous manque cette vision de notre avenir qui est tellement importante pour nous tous.
Nouvelle-Calédonie, voter pour vivre ensemble, c'est un reportage de Germain Treille, prise de son Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Référendum 2018, électeurs de la ville de Nouméa.
Le référendum du 4 novembre est l'aboutissement d'un processus de 30 ans. Trois décennies ont passé depuis la signature de l'accord de Matignon sous l'égide de Michel Rocard. Un accord pour pacifier ce territoire lointain en proie à des violences entre pro- et anti-indépendantistes. En 1984, l'intensité des affrontements est telle qu'on dénombre rapidement des morts dans les deux camps.
Toujours le climat de violence en Nouvelle-Calédonie. Un Européen a été tué la nuit dernière, mais le broussard que l'on avait cru mort hier a seulement été blessé.
Le 19 janvier 85, le président François Mitterrand lui-même fait une visite éclair sur le Caillou pour appeler au calme juste après la mort de l'indépendantiste Éloi Machoro lors d'une opération de gendarmerie.
Avec tout ce qui s'est passé, on pouvait avoir le sentiment qu'il faudrait encore beaucoup de temps pour que les uns, les autres, il leur faudrait beaucoup de temps pour pouvoir de nouveau retrouver un langage. Ce matin et cet après-midi, ce langage, je l'ai entendu, celui du dialogue.
Ce ne sera malheureusement que l'ébauche, l'esquisse du dialogue. Les incidents reprennent sporadiquement, puis régulièrement, jusqu'au printemps 88. Le 22 avril, des indépendantistes attaquent une gendarmerie sur l'île d'Ouvéa. 4 militaires sont tués, une quinzaine d'autres désarmés sont conduits dans une grotte où ils sont séquestrés. Des négociateurs métropolitains sont à leur tour pris en otage.
7 gendarmes et un magistrat ont été pris en otage par les indépendantistes alors qu'ils essayaient de négocier la libération des 15 gendarmes qui sont retenus, vous le savez, sur l'île d'Ouvéa depuis vendredi dernier.
Entre les deux tours de la présidentielle, qui verra la victoire de François Mitterrand aux dépens de Jacques Chirac, les militaires donnent l'assaut et libèrent les otages. Mais cette attaque fait 21 morts, 2 gendarmes et 19 canaques. L'événement pousse enfin les protagonistes à la négociation. Le 26 juin à Matignon, sous la présidence de Michel Rocard, elle débouche sur l'accord prévoyant le référendum d'autodétermination.
Même si pour les militants c'est un peu dur, peut-être.
L'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou sait déjà que les ultras de son camp vont le désavouer, mais il se veut le faiseur de paix de son territoire.
Parce que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important.
Quant à l'inflexible leader caldoche du RPCR, Jacques Lafleur, il finit par prôner le dialogue et le pardon.
Nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir pardonner. Pardonner. Pardonner.
Oui, bonjour Jean-Michel, c'est Germain, France Inter.
Oui.
Nous sommes devant la mairie de Poya.
Ah ben, vous avez encore 8 km à faire.
8 km, mais en direction de Conné ?
Oui.
D'accord, 8 km. Et donc...
Là, vous allez partir, vous allez passer sur le pont de Poya.
À Poya, une commune à 400 km au nord de Nouméa, Jean-Michel Nagle est éleveur bovin. Un caldoche, un descendant des premiers colons. Ses ancêtres sont arrivés en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle.
Bonjour Monsieur Nagle.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour Nicolas. Ça va?
Bonjour. Entrez, entrez.
Merci. Désolé pour le retard, mais on n'avait pas fait attention aux distances suffisamment.
Ici, tout est loin.
Tout est loin. Ok.
Mon arrière-grand-père, d'un côté, hein, en 1892, il est arrivé ici.
Et de quelle région de France?
Vendée.
De Vendée.
Pour une partie, la Vendée, une autre partie, l'Alsace et la Lorraine.
Est-ce que vous vous sentez bien ici?
Oui, sinon, il y a longtemps, on serait parti. Je pense que maintenant, c'est trop tard. S'il avait fallu partir, il aurait fallu qu'on parte en 84. Sinon, ce n'était pas nécessaire.
Au moment des événements...
Tout à fait, tout à fait. On est marqué à vie de ce truc. Dès l'instant où le nombre 84 pour moi sort, aussi bien en comptant une bête ou en 84 000, ou peu importe, dès l'instant où 84 vient à mes oreilles, je vois un traumatisme. Ces événements de 1984... Cette violence, cette agressivité, avec une volonté de ne plus revoir ça.
Depuis cette époque-là, depuis les événements meurtriers des années 80, comment va le pays?
Ça dépend où on se trouve. Il y a les politiques, agitateurs, qui ont une vision des choses. Et il y a nous, les gens de la base, qui sommes là, et pour tout vous dire, si moins on écoute la radio et moins on écoute les politiques, mieux on se porte. Parce qu'on nous remonte le beau béchant, alors que ce soit les indépendantistes, ben on va parler de l'indépendance. Mm-hmm. Si on voit les loyalistes, faut se draper de bleu, blanc, rouge à 100% et faut pas ci, faut pas là. Je pense que pour nous, hommes de la terre, des choses, on a des choses à faire, on a un contact. Une vie à mener avec les Mélanésiens, comme eux, ils ont... c'est indissociable.
Vous devez vivre ensemble.
Il n'y a pas le choix, pour eux comme pour nous. Nous, on est des entre guillemets, des victimes de l'histoire. L'État français a envoyé des gens ici qui ont fait souche. Nous, on est venus ici, maintenant, on n'a plus d'attache là-bas. On n'a plus rien. Moi, je ne veux pas me promener pieds nus là-bas.
Si demain, l'État français vous disait c'est fini, vous devez rentrer.
Je pense que je discuterai avec les indépendantistes pour rester. Je n'ai rien à faire en France. À l'arrivée du référendum, je me demande franchement, je vais voter pour qui?
Vous vous posez cette question?
Tout à fait. Il faut inverser la situation à un moment. Mm-hmm. Se mettre dans la peau d'un canac. Si on m'avait fait ça, moi, j'aurais quelle réaction? Vous, quand les Allemands ils ont débarqué dans vos campagnes, là, vous avez eu quelle réaction? Franchement, je ne suis pas un indépendantiste. Moi, je suis calédonien, moi. Moi, je suis d'abord un mec de Poya, après je suis un mec du Nord, après je suis calédonien, après je suis français. Il faut que ce soit clair. Mais je suis d'ici, moi. S'il faut perdre du pouvoir d'achat, pourquoi pas, pour stabiliser quelque chose à un moment. Mais le problème, c'est qu'avec ce référendum, il y a de fortes chances qu'il y ait le non.
C'est ce qu'on dit.
Voilà.
60-70% voilà. Pour le non.
Mais vous imaginez? Des gens depuis 1984, on leur dit « vous allez avoir l'indépendance ». Mais je me mets dans la tête du gars qui a... Comme ça, là, qui dit « mais attends, ils sont en train de nous niquer, les mecs, là ». Et quand on est là, quand t'es isolé, toi, tu fais comment, toi, perdu, là, dans... Et puis moi, je suis pas le plus isolé, hein. Mais il peut y avoir des choses graves.
Des réactions.
Des réactions.
De la part des tribus.
Tribus, ou isolés, ou... Peu importe. L'un des reproches graves que j'enverrai vers les indépendantistes, c'est qu'il ne nous ait pas ouvert un cahier du vivre après cette échéance. Aujourd'hui, à quelle sauce on va être bouffé?
Ça ne vous dérangerait pas de vivre dans un pays qui s'appellerait la Kanakie?
Mais non.
Avec un drapeau calédonien qui n'est plus le drapeau.
Ça ne me dérange pas.
Bleu, blanc, rouge.
Ça ne me dérange pas.
Oh, Germain, merci de votre accueil. On a vu le chef ce matin, avec qui on a fait la coutume et qui nous a gentiment permis de venir sur vos terres.
Chez les Kanaks, il y a une tradition, c'est la coutume. Un geste de politesse quand on est dans une tribu. Un temps d'échange et de respect, offrande et prise de parole. Nous sommes à la tribu de Saint-Louis, dans la banlieue de Nouméa. Elle a mauvaise réputation, délinquance, violence, revendications indépendantistes. Stigmatisés, les jeunes tentent désormais de montrer un autre visage.
Alors, les gars, vous voulez vous exprimer là ?
Il est déjà avec un micro là.
Alors Lorenzo, vous vous sentez abandonné ?
Plutôt, on est pointé du doigt, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé ici.
Il y a eu beaucoup de blocages de route, voilà, c'est ça ? Il y a eu la mort d'un de vos amis.
Ouais, puis tu vois ici le niveau de délinquance. Du coup, les gens, ils nous connaissent plus par rapport à ça.
Et ça, vous voulez casser cette image-là ?
Voilà. Il y a des jeunes, ils travaillent, ils font des choses, ils sortent, tu vois, on parle avec les gens, et on essaie de s'en sortir. Par exemple, ben, moi, je fais de la musique, je mixe, je chante. On peut faire ça, il y a plein de choses. Il y a du potentiel, en fait, ici, tu vois.
Du potentiel, mais quand vous dites « j'arrive de Saint-Louis, je cherche du travail
». Ouais, ben après, pour le travail, c'est difficile.
Radical.
C'est difficile. Ouais. C'est pas que c'est radical, il y a des gens qui nous prennent, mais la plupart du temps, c'est mort.
Parce que sur le papier, il y a marqué
voilà,
Saint-Louis.
Voilà, ça, ça. Ouais. Mais moi, je pense que c'est plutôt politique, tout ça. Tout ça, c'est voulu, quelque part. C'est des montages.
Vous pensez qu'en vous pointant du doigt, vous, tribu de Saint-Louis, on va dire... Les Kanaks, regardez.
Voilà.
Ils veulent leur indépendance, mais ils sont pas capables.
Voilà, tu vois. Les médias, ils aiment bien mettre en avant tout ça. Là. Dès qu'il y a un truc qui se passe de négatif, ils sont là, ils mettent en première, à la une. Quand il y a des choses positives, c'est moins, tu vois.
L'école de Saint-Michel a été saccagée en début d'année. Je suis partie nettoyer l'école, c'était marqué Saint-Louis dedans. Saint-Louis, Kanaki. Quand les flics ils sont passés, ils ont vu des petits mecs du quartier avec plein de peintures. C'est pas des mecs de Saint-Louis. Ils font... ils font en sorte de nous montrer du doigt, quoi.
Ouais.
Voilà. Que ce soit Saint-Louis ou le Kanak, juste le Kanak, quoi. On est des assistés, voilà leur mot.
On fait des choses bien, tu sais, aussi.
Bien sûr.
Tu vois, il y a des journées patrimoine, il y a des mecs qui font comment, guide touristique pour les journées patrimoine.
Et donc vous voulez montrer que vous voulez travailler pour votre pays, que vous êtes capable...
On montrer que fait... ce qu'ils disent souvent au journal, là, c'est pas ça, c'est...
Vous irez voter ?
Non, moi, franchement, non. Moi, ça m'intéresse pas, le fait d'un petit bout de papier dans une boîte.
Ouais.
Tu vois, les choses comme ça, là, ça attise la violence, la haine, tout ça. Il n'y a que le sang dans tout ça. Il y a eu un exemple avec ce qui s'est passé en 84, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas, ça me dit rien, tout ça. On veut notre indépendance, c'est à nous de bouger par nous-mêmes. C'est pas le petit bout de papier, là, c'est nous, c'est chaque Kanak partout.
Sinon, moi, j'ai rien.
Oui.
Moi, je vais aller voter.
Ah.
Parce que ça, c'est le combat.
Vas-y, comment on se tutoie ?
Voilà.
Et comment tu t'appelles ?
Sandra.
Alors, Sandra, tu iras voter.
Oui.
Alors,
c'est juste
par rapport à d'autres...
C'est juste pour respect, pour le combat de nos vieux. C'est juste pour ça. Parce que voilà, il y en a qui sont morts, faut pas oublier. Ils sont mal morts, on va dire, quoi. Ils ont pas demandé à mourir, quoi. Ils sont battus pour leur pays, ils sont morts, mais...
Donc, oui...
Pour respect pour eux, pour respect pour tout le monde,
ceux
quoi.
Ceux qui sont morts dans les années 80...
Mais tous les vieux, non,
tous
quoi.
Tous les anciens, d'accord, qui ont... Qui se
martyrs.
Sont... Les martyrs.
Les martyrs
qui se sont...
Les d'Ouvéa aussi.
Les martyrs de Yengen, les martyrs d'Ouvéa.
Et Loa Machourou.
Et Loa Machourou, ça, c'est 1985. Chibaou, c'est 89. Pour eux, vous irez voter.
Pour dire qu'ils ne sont pas morts bêtement, quoi.
Vous allez voter, quoi.
Ben Kanaki, quoi. Oui, à Kanaki.
Ils ont signé avec la mort d'une rivière au nord. Mes petits pays ne pleurent pas et restent forts. Car ils ont beau acheter le sol et même le changer, tant que ton cœur battra, petit pays.
Et le drapeau Kanak, c'est vert, la nature. Le bleu, c'est la mer. Le rouge, c'est le sang qui a coulé. Et jaune avec les flèches fêtières. Le jaune, c'est le soleil. Au lever du soleil.
Résiste comme tu peux avec tout ce que tu as. Le pouvoir de changer les choses commence par un petit pas.
Petit pays.
Interception.
Petit pays.
Sur France Inter.
Petit pays.
Petit pays. 3.
Nous sommes sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, à environ 400 km de Nouméa, à Yengen, dans la tribu de Tiedanit, tribu de Tiédanite, c'est la tribu où est né Jean-Marie Tchibaou. Il y a sa tombe également ici. Une route assez sinueuse pour venir jusqu'ici, une vingtaine de kilomètres de piste depuis la commune de Yengen, sous la pluie aujourd'hui. Et nous avons rendez-vous ici avec l'un des chefs de cette tribu.
Bonsoir.
Nous sommes de France Inter, la radio. C'est un grand honneur de vous rencontrer ici sur les terres de Jean-Marie Tchibaou, qui fut un grand homme d'État kanak. On est très heureux et très honorés ce soir d'être dans cette tribu. Et on espère que nous pourrons dialoguer quelques minutes avec vous sur ce qui va se passer pour vous, la construction de l'avenir de votre pays.
Juste déjà vous remercier de rentrer comme ça. C'est une histoire qui vous amène ici. C'est une histoire qui intéresse non seulement du monde chez vous, mais du monde par-delà la France et puis dans le monde, pour dire qu'on vit une situation particulière pour le monde en entier, pas seulement pour nous avec la France. Du coup, voilà, merci d'être encore arrivé ici, puis voilà, on va passer un petit moment ensemble.
Alors ça, faut pas en manger beaucoup, tu sais, hein.
Des vers de terre.
Ah, des vers de terre, c'est pas bon ça.
Des spaghettis verts.
C'est bon, hein, ce sucré. Je voulais vous demander, Jean-Philippe, comment vous appréhendez le futur de votre pays, quoi.
Ça fait pas longtemps que je suis maître auxiliaire au collège de Yengel. À discuter avec le prof d'histoire géo, c'est court le programme d'ici.
Qu'est-ce qu'on dit dans un livre d'histoire sur la Nouvelle-Calédonie aux petits calédoniens? Qu'est-ce qu'on
ça
leur dit?
Ça commence à 1774.
Donc il y a découvert l'archipel par James Cook.
Voilà, il y a du résumé. C'est super rapide jusqu'à 1853.
La prise de possession.
Voilà. Et puis après, il y a... En fait, on arrive très vite à 80.
Entre 1853 et 1980.
Voilà, on arrive très vite là. Il faut vite arriver à événement et puis après l'état dans lequel on est. L'état entre guillemets de paix.
D'accord.
Et puis de convivialité, de consensualité et compagnie. C'est con qu'il y ait un perdant, un gagnant le 4. Parce que c'était pas ça l'objectif. On se retrouve dans un truc où je vais perdre ou je vais gagner. Imaginons que le non ou le oui gagne à 51%. Mais c'est le pire des trucs qui peut nous arriver. Si c'est que ça, on ne fait pas un peuple encore. C'est compliqué de faire un peuple quand on a conscience qu'il y a des gens qui profitent du système colonial pour gagner des sous. Beaucoup de sous. Énormément de sous. Le prix de Nouméa, l'immobilier, c'est la Côte d'Azur.
Est-ce qu'il y a dans la communauté kanak des gens qui sont... anti-indépendantiste.
Il y a plein de gens qui sont anti-indépendantistes par respect de la parole des vieux. Et le fait d'avoir été à l'armée, et puis le fait d'avoir participé aux deux guerres, c'est un endroit où on a été reconnu. Et où on a été valorisé. Où, bon, les gens n'ont pas gagné de galons, mais avoir son nom sur une plaque, avec le petit casque.
Est-ce qu'un jour, on vivra ici en Kanaki?
Tous les gens qui vont voter oui, ils croient. Ceux qui ont 18 ans, ça fait 18 ans qu'on les détermine à ça.
Ouais.
Et la majorité de ceux qui vont voter non, ils pensent que Kanak, c'est que ça.
Que ça, c'est-à-dire?
Que la couleur.
Ah.
Ou que la coutume, ou que vivre en tribu, ou que... Pour caricaturer, moi, on m'a déjà rétorqué, « Ah, mais non, on va pas aller planter des ignames. » Dans sa tête, il s'imagine que c'est imposé. Le peuple à construire là, mais c'est affolant comme on n'a pas avancé. On peut avoir des bonnes relations de travail. À la pêche, on est chacun sur son bateau. La chasse, on est entre nous. On ne fait pas peuple.
Et
Bonjour.
Bonjour, nous sommes de France Inter, la radio, et nous venons voir monsieur Arnaud Bondou.
Chez Arnaud, puis la pièce n'est pas là.
Voilà, vous voulez nos documents d'identité?
Non, c'est bon.
C'est bon?
C'est facile.
Ok.
La Nouvelle-Calédonie est riche, très riche. Elle est assise sur un tas de nickel. La principale ressource, le principal employeur du pays, le principal enjeu économique de l'après-référendum.
Alors Arnaud Bondou, donc le chef du centre SLN de Thiébaïgui. Ça fait 12 ans que je suis à la SLN. On n'a que des mines à ciel ouvert. On a après un site chargé d'histoire. Hein. Ça a commencé avec le chrome dans les années 50.
Ouais.
Par contre, depuis les années un peu plus récentes, on a découvert un gisement de nickel sur le massif de Thiébaïgui aussi. Mmh. Et du coup, depuis les années 70, on a développé un projet d'exploitation du site jusqu'à aujourd'hui.
Le nickel, c'est un tiers en Nouvelle-Calédonie des ressources mondiales. Donc c'est vraiment une économie très importante pour le territoire.
Très important pour le territoire. Donc là, qu'on produit 1 million de tonnes pour l'usine de Doniambo, 1 million de tonnes de minerai de nickel,
ouais,
à peu près une teneur de 2,70-2,80% de nickel. La teneur, elle est importante.
Le nickel, comme ça, ça parle à tout le monde, mais ça sert à quoi?
Ah ben, le nickel, il sert surtout pour les aciers inoxydables. Donc ça permet de faire des aciers de bonne qualité, que ce soit dans les aciers courants type fourchette ou autre, que ce soit dans les aciers de construction.
On en trouve dans l'aéronautique aussi.
Voilà, on en utilise un peu partout.
D'accord, en fait tout le monde utilise quelque chose qui a été fabriqué, extrait ici en Nouvelle-Calédonie. Quand je mange par exemple à Paris dans une brasserie, voilà, un steak frites, j'utilise une fourchette qui a du nickel calédonien.
Voilà, dans les pièces de monnaie également. Et, et par contre, si jamais la fourchette elle se casse parce qu'elle est mauvaise qualité, ça veut dire que c'est du nickel chinois. Hein, nous, on produit un ferro-nickel de très bonne qualité, mm-hmm, qui est reconnu sur le marché mondial et qui sert vraiment pour faire des aciers de très bonne qualité.
Le développement économique et social du territoire uniquement lié au nickel, ce n'est pas ce que croit cet agriculteur métropolitain que nous avons rencontré au marché de Nouméa. L'agriculture peut être un levier d'émancipation.
Grégoire Baudonnel, je suis un agriculteur bio installé à Boulou-Paris et j'exploite 13 hectares avec une équipe de 6 personnes. J'ai un peu vu tous les coins de la Calédonie et il y a plein de pépites en Calédonie, dans les terroirs. Il y a plein de pépites de terroirs qui sont inexploitées. Le potentiel agronomique existe. Nos terres ne sont pas les plus riches de la planète, mais elles peuvent tout à fait être productives. Moi, je trouve qu'elles le sont. Je fais de l'agriculture biologique et je m'en sors. Mais il y a des concurrents. La mine est la première activité en milieu rural, hein, en Nouvelle-Calédonie, dans beaucoup de communes. Et c'est le principal concurrent pour attirer les forces vives de travail, d'une part. Et puis, d'autre part, on n'a jamais fait cette mutation qui consiste à dire aux agriculteurs, c'est à vous de vous prendre en main.
Quand on dit qu'il y a du potentiel, on pense évidemment au peuple kanak.
Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de kanaks qui pensent que l'agriculture est une solution pour eux du point de vue du projet personnel, du point de vue du projet professionnel. Il y en a, mais malheureusement, ils sont trop rares. L'administration, qu'elle soit du nord, du sud ou des îles, d'ailleurs, hein, peu importe qu'elle soit à tendance loyaliste ou indépendantiste, ont tous géré l'agriculture à peu près de la même façon, en niant les savoir-faire kanak en matière d'agriculture. Alors que moi, je pense qu'il faut repartir de ça. Je pense même que l'agriculture biologique peut être une chance pour ça, parce qu'en agriculture biologique, on a besoin d'être en harmonie avec nos systèmes de production, avec nos écosystèmes. Il faut apprendre la nature d'abord, parce qu'on fait avec elle, et on ne fait pas sans elle, contrairement à l'agriculture chimique. Et donc, les savoir-faire anciens, et notamment les savoir-faire kanak, nous intéressent énormément. Et donc c'est l'occasion de tisser des ponts avec ces savoir-faire et cette agriculture-là. Et de la réhabiliter aussi parce qu'elle a été niée et on l'a dénigrée ou on l'a ignorée. Et on continue d'ailleurs dans les schémas actuels à l'ignorer et à considérer qu'elle vaut pas grand-chose.
On parle beaucoup d'indépendance en ce moment sur le territoire. Et une indépendance agricole, alimentaire, est-elle possible?
Aujourd'hui on n'y est pas. On importe 80% de ce qu'on mange, quoi.
Alors qu'il y a quand même...
Alors qu'il y a
possibles à faire pour.
Il y a 2 millions d'hectares en Nouvelle-Calédonie, dont à peu près 10% qui sont cultivables. Il y a des hommes qui sont là et qui cherchent du travail, et il y a des savoir-faire qui existent et qu'on pourrait valoriser. Tout ça, ça demande à repartir. Moi, j'ai travaillé un peu dans le développement local, je trouve que c'est une bonne méthode. Il faut partir de ce que les gens veulent faire et les accompagner.
Ouais, on vous sent vraiment remonté contre l'impression, quand vous dites ça, que ouais, on laisse tomber des gens alors qu'il y a du potentiel, du savoir-faire, des compétences.
Alors, la vie est facile en Nouvelle-Calédonie, belle pour beaucoup de gens, mais pas pour tous. Et malheureusement, il y a beaucoup de déprises. Il y a des communes qui perdent des habitants chaque année. Il y a des jeunes qui voudraient bien vivre chez eux et qui quittent leur maison pour s'installer en ville, là où ils ne voudraient pas vivre, et là où souvent ça ne se passe pas forcément bien. Et ça, en matière d'aménagement du territoire, ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et en matière de vivre ensemble, ce n'est pas acceptable non plus. Il faut arriver à ce que chacun puisse vivre chez soi, surtout quand on a ses potentialités.
Et c'est un outil de développement très très fort.
On a besoin d'un outil de développement fort.
Et l'agriculture, peut-être cet outil pour permettre à ces
L'agriculture, ça emploie beaucoup de monde. Moi, sur 1,5 hectare de maraîchage, j'emploie 5 personnes. Je fais vivre 5 familles. Et on peut être nombreux comme ça.
5 familles d'une tribu qui est...
Alors, certains sont de la tribu, d'autres du village.
Ouais.
Hein, mais voilà, on est, plus moi, on est 6 familles à vivre.
Pas très loin de la place des Cocotiers, dans le centre-ville de Nouméa, nous avons rendez-vous avec la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. On va évoquer avec elle les atouts, les faiblesses économiques du territoire. Et je crois qu'on va beaucoup parler de la Chine.
Je m'appelle Jenny Sigo et puis je suis présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie.
Est-ce que c'est une crainte des entrepreneurs? Ils mettent déjà des capitaux à l'étranger au cas où
Bon, les entreprises, je pense un peu, les particuliers, c'est sûr.
Les particuliers, c'est sûr, mettent déjà de l'argent, par exemple...
Oui, pour acheter une maison en Nouvelle-Zélande, en Australie, juste pour avoir l'argent un peu ailleurs, juste au cas où.
Au cas où.
Oui, oui. Les entreprises, pas autant que cela, mais un peu aussi.
Les conséquences économiques seraient catastrophiques, selon vous?
Oui, en cas de oui à l'indépendance, oui. Quand on sait que la France injecte quand même tous les ans 150 milliards de CFP dans l'économie.
Ça fait à peu près donc...
1,5 milliard
d'euros.
Oui, oui. Que la France, quand même, a toujours les compétences régaliennes ici.
Les compétences régaliennes, c'est l'armée,
c'est
la police.
C'est l'ordre public, la monnaie aussi. Mmh. Alors, la monnaie, c'est aussi un sujet. En ce moment, on est adossé à l'euro. Donc, on a quand même une stabilité qui bouge avec l'euro, mais une stabilité quand même monétaire qui est très bien. Mais si jamais la France parte, est-ce que on va pouvoir continuer à être adossé à l'euro? Je ne pense pas. On va avoir une monnaie qui ne vaudrait pas, absolument pas, ce que ça vaut aujourd'hui. Et quand on regarde quand même notre manque d'indépendance économique, productive ici, on est obligé d'importer beaucoup, beaucoup de biens pour pouvoir survivre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Tout va devenir horriblement cher. Et c'est la spirale qui commence.
La Chine n'attend qu'une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante pour vraiment s'approprier le territoire. C'est ce que vous pensez?
Je ne pense pas qu'on a la priorité numéro un de la Chine, loin de s'en faut.
Même avec un tiers des ressources mondiales du nickel?
Il y a ça, mais la Chine voudrait bien, mais pour l'instant, bien entendu, de par la présence de la France, la Chine ne peut pas y entrer. Ils ont fait quelques essais, avec le Santal, par exemple. Mais le Santal, vu sa valeur, a été carrément épuisé partout dans le monde. Il n'y a plus de santal.
Le santal, c'est quoi?
C'est un arbre qui s'appelle santal, et l'essence de ces arbres est utilisée dans la fabrication des parfums, de toutes sortes de choses. Et par exemple, on a un santal qui est extrait sur une des îles Loyauté ici, qui est le santal utilisé exclusivement par la maison Chanel. Mais les Chinois ont commencé à chercher justement du bois de santal un peu partout afin de pouvoir commencer à extraire. Ils sont arrivés sur les îles Loyauté en offrant 1 million pour un conteneur. Bon, 1 million, c'est pour les Iliens, c'est quand même beaucoup de
d'argent. De francs pacifiques,
oui,
là, on parle toujours
ah,
en
oui,
francs
pacifiques. Ah oui, on parle toujours en francs pacifiques, oui.
10 000 euros, quoi, à peu près, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça. Ils ont demandé juste, même pas un droit coutumier, ils sont allés juste voir les particuliers qui avaient un terrain, est-ce qu'on peut couper et...
Avec de l'argent?
Oui, c'est ça.
Juste un chèque?
Oui, et puis avec...
Et puis c'est, pour,
ouais.
C'est à nous?
Oui.
D'accord.
Tandis que cette plantation dont j'ai parlé qui fournit Chanel, eux, ils font tout dans l'aspect du développement durable, ils replantent à chaque fois qu'ils arrachent, et tout est fait comme ça. Mais les Chinois sont arrivés, ils ont tout arraché, ils sont partis. Hein.
J'imagine que vous allez de temps en temps en métropole.
Mm-hmm.
Comment on perçoit, à 22 000 km de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie?
Oui, c'est un peu, c'est où? C'est loin, c'est... Et c'est vrai que je pense que les chances qu'on a ici en ce moment est quand même un frein à l'investisseur
métropolitain
ou
qui pourrait se dire tiens pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie, ça peut être un marché intéressant dans le Pacifique Sud pour mon entreprise et là difficile.
C'est magnifique comme pays. On a tout ici, on a tout. On a les plages, on a les montagnes, on a quand même la culture française ici, on a la culture mélanésienne ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Il nous manque un peu de population, c'est sûr et certain. Et puis, justement, cette vision de notre avenir qui est tellement importante pour nous tous. Ouais.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
On va voir qui là?
Le président de l'université.
Gaël Lagadec, je suis à l'université de la Nouvelle-Calédonie depuis 1998 et j'en suis le président depuis 2013.
Alors Gaël Lagadec, le 4 novembre prochain, la Nouvelle-Calédonie vote pour ou contre sa pleine souveraineté, son indépendance. Est-ce que vous pouvez nous dire qui peut voter, qui ne votera pas à ce référendum?
Donc grosso modo, il faut être né en Nouvelle-Calédonie et je crois installé depuis ou revenu depuis moins de 3 ans. Pour les non-natifs, il faut être arrivé en 1994 et puis être inscrit depuis lors sur les listes électorales et avoir eu un séjour non interrompu depuis 1994.
Est-ce que ici, au sein de l'Université de Nouméa, on en parle? Est-ce que les étudiants s'expriment autour de ça? Est-ce qu'il y a de l'interaction avec les profs pendant les cours éventuellement? Est-ce que ça fait débat?
Non, ça fait très peu débat. Alors, le référendum, parce que... Globalement, la politique, les étudiants en parlent pas. Ils sont très peu politisés. Il y a des raisons évidentes à cela, c'est que on a beaucoup d'étudiants qui sont indépendantistes ou de philosophie indépendantiste. D'autres, c'est le contraire. Et discuter de politique, ça les ramènerait à ce clivage-là, donc à les diviser. De façon plus générale, peut-être que chacun se dit. Le référendum débouchera pas sur l'indépendance, que donc cet enjeu qui était bon espéré pour certains, anxiogène pour d'autres, est déjà dépassé, qu'ils se projettent dans autre chose.
Ah, ils savent qu'ils vont devoir, à partir du 5 novembre, travailler ensemble pour le futur de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils essaient de ne pas politiser cet enjeu.
Oui, travailler ensemble, mais déjà vivre ensemble. Ils incarnent par leur mode de vivre ce qu'on appelle toujours le destin commun.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le destin commun?
Ça reste un marqueur de l'accord de Nouméa. C'est la volonté que les différentes communautés ne vivent pas les unes à côté des autres, mais arrivent à former une communauté néo-calédonienne. Bon, il en reste pas moins que faut pas non plus avoir un discours trop angélique ou angéliste là-dessus, parce que le référendum, même s'il est encore l'objet de peu de débats, il a une dimension politique mais aussi identitaire. Les Kanaks sont reconnus comme un peuple, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien, puisque, vous savez, on avait refusé la notion de peuple corse, on a accepté celle de peuple Kanak parce qu'il y a la dimension d'émancipation inscrite dans l'accord de Nouméa. Le réflexe identitaire, c'est quand même que s'il y a des clivages politiques qui ressortent fortement dans la campagne, ils vont se surimposer aux frontières ou aux périmètres de communautés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Hein. Il y a de la pauvreté, il y a des inégalités, il y a des vraies souffrances, mais il y a beaucoup également de résilience. Des communautés qui sont pauvres, des groupes, même par quartier, sont dans des difficultés économiques sans pour autant revendiquer sous forme d'une quelconque violence. Alors, il y a également le fait que chez les Océaniens, le respect, il est dû aux aînés, il s'acquiert donc par l'âge. Et on sait aussi que plus on vieillit, moins on est révolutionnaire. Un jeune qui voudrait être, mettons, agitateur, une communauté ou une autre, s'il est dans un groupe océanien, il aura du mal à se faire entendre parce qu'il est jeune. C'est quand même la parole des anciens qui compte. Chaque fois que je fais une coutume avec mes étudiants, quand il y a une manifestation, eh ben, ils vont d'abord prendre hommage aux anciens, etc. Donc,
il y a un respect.
Oui, il y a un respect des anciens, donc un respect de l'âge.
Et les anciens n'ont pas vraiment envie de revivre ce qu'ils ont pu vivre.
En tout cas, c'est jamais des personnes âgées qui font les révolutions.
Selon des sondages, les anti-indépendantistes devraient l'emporter. Yves, originaire de Marseille, est aujourd'hui à la retraite. Il votera non.
Je suis installé en Calédonie depuis 1990 et puis je suis très bien ici. Pour moi, la Calédonie, à l'école, on ne m'en a jamais parlé. Hein. On ne m'a jamais dit que c'était français, quoi, fait que ça faisait partie de la France. Quand je suis arrivé, bon, vu d'avion, déjà, c'était le paradis. Je suis arrivé à 7h du matin, temps superbe au mois de novembre, les îlots, enfin, c'était merveilleux.
Et c'est dur de s'intégrer en Nouvelle-Calédonie ?
Moi, des amis, des Kanaks, je n'en ai pas. Les amis, c'est tout des oreilles, comme on dit.
Les oreilles, ce sont les métropolitains.
Les métros qui sont installés ici. Après, des caldoches, comme on dit. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns.
Les caldoches, ce sont les Calédoniens
de souche.
Voilà, les colons, des colons et des bagnards.
Des colons et des bagnards.
Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas d'amis Kanak. Est-ce que vous êtes déjà allé en tribu ? Est-ce que vous êtes allé faire la coutume ?
Non. Moi, je me refuse à faire la coutume.
Pourquoi ?
Je trouve que ce n'est pas normal. C'est les Français qui ont fait qu'il y a eu la coutume. Mmh. Ça n'existait pas chez les Kanaks. C'est les Français qui sont arrivés, qui ont donné des cadeaux pour se faire accepter, quoi. Donc, moi, de donner des cigarettes, déjà, je ne fume pas. Et
des bonbons pour les enfants,
des bonbons,
du tissu,
voilà.
Du tabac.
J'ai campé.
Campé,
au début,
ouais,
que j'étais là, je suis allé un peu de partout. J'allais dans des endroits déserts. Quand j'essayais de trouver quelqu'un. Bonjour, est-ce que je peux m'installer pour camper ? On ne m'a jamais dit non. Jamais eu de problème. Le tout, c'est de dire bonjour en arrivant. Mais sinon, ils sont très gentils. Hein. Quand ils sont dans leur milieu, ils sont bien. Le problème, c'est quand ils viennent à Nouméa, qu'ils voient le progrès. Parce que c'est vrai, ils aimeraient bien avoir la télévision, ils aimeraient bien avoir une voiture, ils aimeraient bien avoir un frigo, mais il faut travailler. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en faire travailler on les embauchait, on les déclarait. Puis le gars, au bout de 6 mois, il disparaît. 5-6 mois après, il revient. Bonjour. Oh, tu étais. Bah, j'étais en tribu.
Vous vous sentez calédonien ou français ?
Non. Je me sens français, moi.
Je pense
qu'il va y avoir un peu de remue-ménage après les élections et après, ça va se calmer, quoi.
Vous ne partirez pas ? Si par exemple,
si on me met dehors, je m'en vais. Hein. Mais
vous pensez qu'on pourrait vous mettre dehors si le oui gagnait ?
Je ne pense pas, mais l'atmosphère changerait.
Vous poseriez des questions ?
Oui. Parce que bon, c'est vrai qu'on a entendu dire des Kanaks qui disent ouais, aux élections, nous, on viendra prendre la maison, on viendra prendre.
Ce que vous nous dites, c'est un peu l'opinion de tous les.
Il y a beaucoup de gens qui disent. Enfin,
métropolitains installés ici.
Les métros, ils se sentent pas. Il y en a qui sont partis déjà. Hein. Il y en a qui ont peur, qui sont partis. Ceux qui avaient déjà connu les événements, ils n'avaient pas envie de reconnaître ça. Mmh. Mais maintenant, il y a beaucoup de leaders qui se sont calmés, c'est vrai qu'ils demandent à ce que les Kanaks soient reconnus, parce qu'il y a une époque, ils étaient... c'était des moins que rien, quoi.
Là, aujourd'hui, ils sont reconnus comme un peuple.
D'ailleurs, avec, parce qu'il faut voir tout ce qu'ils, les aides qu'ils ont pour les études, parce que quand ils partent en métropole, on paie 8 avions, on paie les hôtels, on paie tout. Hein.
Et la France, d'après vous, a tout intérêt à rester dans cette région?
Pour moi, oui. Demain, ils mettent la France dehors. Après-demain, il y a ou les Chinois ou les Australiens ici. Hein. Sinon, bon, la France va perdre. Si elle perd la Calédonie, elle perd automatiquement Wallis et Futuna. Si ça se passe comme ça, il est possible que Tahiti demande l'indépendance aussi, parce qu'eux aussi, ils voudraient l'indépendance. Et si elle a l'indépendance, ils deviennent américains. Hein. Tahiti.
Nous arrivons au centre culturel Chibaou. C'est le musée de l'art kanak, de l'art mélanésien à Nouméa. Nous y attend Emmanuel Chibaou, le directeur, qui est l'un des fils de Jean-Marie Chibaou. Jean-Marie Chibaou, leader charismatique, politique des Kanaks dans les années 70 et 80, qui avait signé la paix à Matignon en 88 sous Michel Rocard avec Jacques Lafleur du RPCR et qui a été assassiné sur l'île d'Ouvia en 89.
La culture dans la revendication nationaliste, c'est le pivot de la revendication. En Océanie, les échanges politiques ne se font que s'il y a une reconnaissance mutuelle. Pour pouvoir discuter, il faut que celui qui soit mon partenaire, enfin pour qu'il soit mon partenaire, il faut que je le reconnaisse en tant que, avec cette qualité d'homme. Parce que Kanak, c'est ça, ça veut dire être un homme. C'est un humain, quoi.
Kanak, ça veut dire homme.
Voilà. Mais après, au moment de la colonisation, c'est devenu une insulte. Ça désignait les sous-hommes, quoi. Donc, Kanak, c'est venu avec ce discours-là sur la colonisation que les indépendantistes ont repris à leur compte en disant « Mais puisque c'est le terme que vous nous renvoyez comme insulte, c'est, ça sera désormais notre, un terme d'affirmation identitaire que l'on revendique. On va nous donner des leçons de démocratie à nous, les Kanaks. » Alors que c'est la démocratie qui a permis l'instauration de la colonisation ici. L'arrivée des gens qui s'implantent et puis qui prennent la terre à d'autres hommes. Moi, c'est cette reconquête d'hommes, elle passe nécessairement par le prisme par lequel l'Occident il nous calcule.
Et voilà. Pourquoi on n'accorde pas ça à la culture kanak?
La question, il faut la poser aux Français.
On a peur?
Je pense que c'est une peur, parce qu'à partir du moment où on reconnaît, enfin moi je le vois, je le perçois plutôt comme une richesse parce que ça fait partie de mon héritage. Moi j'ai pas de mal avec ça. Je parle français, je parle ma langue. Ma contribution à l'humanité, c'est d'apporter cette parcelle d'humanité que je partage avec le français. Mais le français lui, il partage quoi avec moi? Lui il vient, il donne les leçons et puis il referme les livres et puis après il repart chez lui. L'angle dans lequel on se projette pour ce référendum, c'est un peu comme les Français au Moyen-Âge. Où on regardait la map monde et puis on pensait qu'à l'horizon, on allait tomber et c'était la fin du monde, quoi.
Alors, c'est pas la fin du monde, le 4 novembre?
Non, non, pour moi, le 4 novembre, c'est un rendez-vous qu'on a. Si c'est le maintien dans la France, mais comment on fait? Soit on devient un pays, un État...
Une sorte d'indépendance association.
Voilà, ce qu'avait proposé Pisani, par exemple, en 85.
Vous créez un État calédonien associé à la France?
Voilà, de la même manière que les
On peut se diriger dans les 20 ans à venir vers cette solution.
Enfin, c'est tout à son honneur d'accompagner ces pays-là. Ça a été un échec pour l'Afrique du Nord. On le paye encore aujourd'hui. L'intelligence, ça serait de tirer bénéfice de ces erreurs-là. La décolonisation réussie, c'est ça le propos des accords politiques successifs. Il ne faut pas remettre... au 5 novembre, une réalité qu'on vit tous les jours sur le racisme, sur l'injustice sociale. D'un côté, là, on voit pas, c'est la radio, mais il y a les squats.
Des bidonvilles.
Voilà, moi je viens au travail, je croise les gens qui vont chercher de l'eau en bas au skatepark, avec des bidons, ils travaillent avec des brouettes, et puis ils vont chercher de l'eau. À 5 km dans l'autre sens, sur la presqu'île, il y a les endroits où il y a les grandes propriétés les plus fortunées de Nouméa. C'est pas parce qu'on vit sur un même territoire qu'on vit ensemble. Le 4 novembre ou le 5 novembre, ou C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à mettre les gens en mouvement. C'est aussi prendre ses responsabilités. Hein. On peut plus demander toujours à la France de réfléchir à notre place.
Est-ce que la Calédonie, est-ce que vous êtes prêt à prendre aujourd'hui ce destin en main ?
On était des sous-hommes. On nous donne l'accès au droit de vote. On est devenus, entre guillemets, des hommes. Mais pas éduqués, pas de pauvres. On ne peut pas vous donner l'indépendance parce que vous n'êtes pas encore prêt. Je dis, mais à quel moment on sera prêt ? Je veux dire, quand on monte un vélo, il faut bien qu'on tombe à un moment donné. Mais il n'y a jamais de moment où on est prêt ou on n'est pas prêt. C'est le moment où on décide, c'est celui-là, c'est là. C'est celui-là qui est le bon moment.
C'est donc le 4 novembre qu'on saura si les Néo-Calédoniens ont choisi ou pas l'indépendance. Nouvelle-Calédonie, voter pour vivre ensemble, c'était un reportage de Germain Treille, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe, à retrouver naturellement sur franceinter.fr et sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine.